autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous demander pourquoi revisiter la longue histoire du vivant sur le mode collectif, puisque nous sommes tous hybrides, entrelacés. Les récentes découvertes sur l'importance du microbiote ou des gènes voyageurs nous montrent que l'évolution de la vie sur Terre est une co-construction, un job réalisé à plusieurs, et le maillon faible est souvent le plus fort. Bien loin donc de la vision pyramidale de la sélection naturelle, il nous faut revoir notre copie en remontant aux communautés échangistes primitives, aux cellules chimériques, aux partenariats entre organismes, bactéries et virus. Nous-mêmes sommes tout autant microbiens qu'humains, une véritable révolution scientifique et intellectuelle que nous fait partager notre invité Éric Batteste, chercheur en biologie évolutive qui a mené l'enquête sur nos origines métissées dans son dernier ouvrage Tous entrelacés, point d'exclamation, des gènes aux super-organismes, les réseaux de l'évolution, autour de la question pourquoi sommes nous tous entrelacés et qu'est-ce que ça change? Bienvenue. Bonjour Éric Batteste.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes docteur en biologie évolutive et en philosophie de la biologie, directeur de recherche au CNRS. Vous co-dirigez à l'université Pierre et Marie Curie une équipe de recherche en biologie évolutive. Nous avions déjà eu la chance de vous recevoir, Éric, autour de votre précédent ouvrage, Les gènes voyageurs, qui remettait en question pas mal d'idées reçues sur l'évolution. Cette fois-ci, vous allez encore plus loin, avec Tous entrelacés, point d'exclamation, qui vient de paraître aux éditions Belin, et dont nous avons, amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Nous sommes vraiment, Éric Batteste, tous hybrides, tous entrelacés dans le réseau du vivant. C'est une découverte assez récente, hein, qui change tout.
Alors oui, nous sommes tous entrelacés. L'âge de cette découverte peut varier parce que les différents éléments par lesquels nous sommes entrelacés ont été découverts progressivement. Nous sommes entrelacés parce que nos cellules sont des chimères. Nous sommes entrelacés parce que nous vivons avec des microbes, des bactéries qui nous construisent.
Donc c'est une sorte de, vous dites, une mosaïque évolutive, c'est ça? Il n'y a pas un grand arbre de la vie, mais des réseaux.
Alors pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux qui s'entrecroisent, des réseaux de réseaux, effectivement.
Des réseaux de réseaux, vous citez même votre grand-mère, tout est lié, disait-elle. Et c'est vrai,
oui,
elle avait raison.
Oui, elle le dit encore, elle a 95 ans.
On la salue à l'occasion. Et le plus fort dans cette extraordinaire aventure du vivant, le plus fort, c'est aussi souvent le maillon faible.
Ça, c'est un point de vue intéressant. Ça consiste à dire, qu'est-ce qui existe dans la nature? Est-ce que ce sont les plus aptes qui se sont multipliés, qui ont remplacé les moins aptes? Ou est-ce qu'il y a des agrégations, des communautés, finalement, d'entités moins capables, mais qui s'appuient les unes sur les autres, qui se font la courte échelle? Et à mon point de vue, il y a beaucoup de communautés constituées finalement d'associations. Il y a un poème qui s'appelle « L'aveugle et le paralytique », d'aveugles et de paralytiques, d'associations, de partenariats qui permettent aux vivants d'avancer là où, individuellement, les différents composants auraient du mal à s'en sortir seuls.
Et donc, ça peut être les plus faibles qui avancent, justement.
Ensemble.
Ensemble, hein, c'est ça. Hein. Vous dites qu'ils collaborent ou qu'ils compensent aussi, qu'ils se compensent les uns les autres.
C'est très important. Je pense qu'il y a des groupes de compensation. Souvent, on pense une espèce isolée, le meilleur de l'espèce. Mais si on commence à penser en termes de groupe, on peut avoir des ensembles qui se compensent.
Pour comprendre cette compensation, cette révolution, c'est quand même une révolution intellectuelle, scientifique. Non, vous hochez la tête, c'est pas une révolution. En tout cas, Hervé Le Guyader, hein, qui a préfacé votre ouvrage, le dit, c'est une révolution.
Je dirais que ce sera une révolution le jour où on pourra effectivement identifier, étudier les liens entre tous ces ensembles d'aveugles et de paralytiques, les liens entre tous ces ensembles qui se compensent. Quand on aura la recette pour aller dans l'environnement et dire « Oh, voilà un groupe fonctionnel », on peut identifier les éléments d'un moteur. Mais ce qui compte pour faire marcher un moteur, c'est de comprendre comment les éléments du moteur, les pièces, interagissent. Il nous faudrait un appareil qui nous dise « Voilà les interactions ». Et là, ce sera une révolution.
Vous avez mené l'enquête, hein, tout de même, pour faire cet ouvrage. Et dans votre laboratoire, au fond, vous menez l'enquête sur nos origines, donc multiples, hybrides, qui mêlent bactéries, microbes, virus.
C'est ce qu'on regarde, effectivement. On prend Une cellule, par exemple, notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. D'ailleurs, notre corps contient des cellules humaines et des cellules non humaines, des cellules de bactéries.
En qu'est-ce qu'il y a de plus
quantité comparable. Il y a juste beaucoup plus de gènes microbiens que de gènes humains. Mais quand on regarde les cellules qui constituent le corps humain et qu'on se demande partie par partie d'où viennent ces parties, ce qui est une question classique en évolution, trouver une origine, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une origine, mais de multiples origines. Donc les parties sont des chimères, les parties viennent de multiples origines, et là ça devient très intéressant parce qu'il faut identifier qui a donné les parties, comment ces associations sont mises en place. C'est toute une architecture qui a évolué, c'est ça qu'on essaye de décrire.
Autour de la question jusqu'où sommes-nous tous entrelacés, c'est un véritable renversement de perspective, hein, on l'a compris. Peu de chercheurs comme vous en prennent la mesure, mais il y en a tout de même quelques-uns, comme le professeur Didier Raoult, virologue, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, grand empêcheur de penser en rond aussi, qui nous rappelle à quel point nous sommes tous des chimères. Écoutez cet éclairage, professeur Didier Raoult, et vous réagirez ensuite, Éric Batteste.
On est des mélanges de gènes de sources différentes. Si vous voulez, l'évolution n'est pas linéaire au bout d'une branche, ça c'est un fantasme darwinien. On est des mélanges, j'ai qualifié ça plutôt que d'arbre de la vie, de rhizome de la vie. On a des branches différentes et nous, on émerge à un moment et on n'identifie pas nécessairement tout ce que sont nos ancêtres. Mais c'est-à-dire que nous sommes le résultat de différents ancêtres. Et dans nos ancêtres, on a des virus qui ont inventé le placenta, on a des rétrovirus qui nous distinguent des grands singes, on a des gènes dont on sait qu'ils sont d'origine bactérienne, qui sont d'origine virale. Donc tout ça est extrêmement complexe et continuera à évoluer parce qu'on est fertilisé en permanence par des gènes de ceux que nous rencontrons. Alors voilà, ils continuent à s'inventer des nouveaux organismes, des nouveaux gènes, et ça continue tous les jours. Donc on n'est pas au bout d'une évolution terminée. C'est quelque chose de dynamique, l'évolution, qui continue à se faire. Donc c'est une vision différente et on constitue des chimères. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'effectivement, les humains eux-mêmes, les mamans en particulier, sont des chimères qui se constituent au fur et à mesure avec les cellules de leurs enfants. Et donc elles intègrent au moment de la grossesse un certain nombre de cellules de leurs enfants qui viennent se mettre dans leur corps et elles sont des chimères. Et donc quand elles ont eu des garçons, en plus elles sont des chimères de cellules d'hommes et de femmes.
Les mamans sont des chimères, encore plus des chimères que les autres êtres humains. Éric Batteste, vous voulez réagir à cet éclairage?
Alors, je réagis aux propos généraux de Didier Raoult, que je salue, et je souscris à ses propos sur les chimères au sujet des mères. Ça, je ne le sais pas, donc je lui fais confiance. Pour le reste, je suis bien d'accord avec lui. Nous sommes la preuve que l'évolution est un métissage, est un mélange. S'appuyer les uns sur les autres de la courte échelle. Nous sommes la preuve dans nos cellules mêmes. Les composants de nos cellules viennent de différentes sources. Et effectivement, il y a une dynamique de l'évolution, qui est une dynamique des liens. Qui
une
s'est associé avec qui?
Dynamique des liens, et ce depuis les origines.
Depuis
c'est ça,
les origines. C'est vraiment
qui
le
défi.
Qui
s'est associé avec qui pour pouvoir continuer et survivre, vivre?
Qui s'est associé avec qui d'une manière qui a permis à la vie de continuer? Sinon, on aurait un discours qui semblerait finaliste. C'est-à-dire que d'une façon très mécanique, ces courtes échelles, ces charpentes, elles se mettent en place. Il y a accolement entre des protéines, alors une protéine peut perdre une propriété si l'autre à laquelle elle est accolée la compense. Ça, il n'y a pas besoin nécessairement que ce soit quelque chose qui soit orienté, ça se fait mécaniquement, ça se fait automatiquement. Et donc, à toutes les échelles d'organisation biologique, dans les molécules, comme entre les cellules, comme entre les organismes, comme au niveau des écosystèmes, des liens se mettent en place. Le défi pour les évolutionnistes, c'est d'identifier comment les liens se mettent en place, quels liens se mettent en place.
D'identifier par exemple le fait que nous, enfin les mammifères placentaires que nous sommes, nous et les autres animaux aussi, le sont grâce au virus, c'est ça?
Oui, c'est vrai, c'est une excellente remarque. Quand on regarde l'origine de certains de nos gènes, on s'aperçoit qu'ils proviennent de virus. Et donc, en analysant gène par gène l'origine de chacun des gènes, on voit des discordances, on voit des racines multiples, mais fusionnées en une même entité.
En une même entité, alors les êtres humains que nous sommes, ça les remet un peu en question. Vous l'avez dit, on a plus de gènes microbiens. Non, ça ne remet pas en question, on a plus de gènes microbiens ou de communautés microbiennes que de gènes humains. On sait aujourd'hui qu'on a dans notre intestin une foultitude de bactéries qui nous dirigent aussi un peu, qui influencent même notre morale. On ne cesse finalement aujourd'hui de découvrir à quel point nous sommes nous-mêmes, mais aussi beaucoup d'autres en même temps.
Alors ça, c'est aussi très intéressant. Je pense que ce que ça remet surtout en question, ce sont les manières d'étudier les animaux et les humains. dans l'aspect biologique. Parce qu'il y a une part microbienne des animaux, il y a une part microbienne des hommes, donc il faut l'identifier. Donc quand on étudie maintenant la zoologie, on le fait avec des antibiotiques pour tuer des microbes. On étudie les animaux en analysant les microbes. On infecte les animaux avec des microbes. C'est un changement dans les pratiques disciplinaires. On ne peut plus étudier les animaux comme s'ils étaient stériles. Donc là où c'est une révolution, là où c'est un changement, c'est dans l'idée de se dire « Ah, les animaux sont probablement bien plus complexes que nous ne le pensions. » Ils ne sont pas seulement codés par l'information des gènes animaux. En fait, ils sont co-construits par l'information des gènes animaux et par l'information des microbes qu'ils abritent.
Il y a aussi moins de frontières, hein. Tout ça est quand même nettement plus poreux.
Il y a d'autres frontières.
Ah, d'autres frontières.
Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que du coup, il faut étudier à quel rythme et selon quelle modalité les microbes entrent en association avec les animaux ou avec les hommes. Parce que ça bouge vite, parce qu'ils viennent de l'environnement. Et donc, une des choses qui change aussi dans la théorie de l'évolution, c'est de se dire, il y a ce que j'ai hérité, qui est en moi, il y a ce que je récupère de mon environnement, et qui va pouvoir contribuer à me construire et contribuer à construire mes descendants.
Et tout ça, ça continue à bouger, à évoluer, c'est dynamique.
Et ça évolue encore plus vite du côté des microbes que du côté des gènes humains.
Une véritable course autour de la question « Pourquoi sommes-nous tous entrelacés, imbriqués et interdépendants ?» On plonge into the wild avec le guitariste et chanteur britannique Lewis Watson sur RFI.
Significant in at the drop of a hat, I could leave almost everything that I've ever known. So here we go, step out into the wild. There's a beautiful storm in your eyes. We're perfectly intertwined. It's quite old. You could be my way of life.
Avec Lewis Watson sur RFI, en compagnie du chercheur en biologie évolutive Éric Battès, notre invité, autour de la question empruntée au titre de son dernier ouvrage « Pourquoi sommes-nous tous entrelacés ?» Tous hybrides, fruits d'une co-construction entre des gènes qui voyagent allègrement d'une espèce à l'autre, et pourquoi ça change tout? C'est la question que vous pose Éric Battès, Mathieu Novak, du mensuel Science et Avenir.
On découvre de plus en plus qu'il y a des transferts de gènes entre des espèces extrêmement différentes. Est-ce que ça remet en cause d'une certaine manière la notion même d'espèce ?
Votre réponse, Éric Battès.
Oui, ça fait partie des processus qui compliquent la définition de l'espèce chez les bactéries, mais surtout ce que ça remet en cause à mon point de vue, et c'est ce que vous disiez, les frontières. Où s'arrête l'individu vraiment? Et l'individu est plus grand qu'on ne le pense. Mmh. Il va au-delà de la membrane qu'on attribue à la bactérie, au-delà de la peau qu'on attribue aux humains. Nous sommes en fait des collectifs. C'est ça que cela
nous
change.
Nous sommes tous des collectifs.
Et donc, l'aspect important ici, c'est qu'il va falloir décrire l'évolution non pas d'espèces, mais de collectifs.
Et l'évolution, vous avez dit, donc une évolution dynamique. En gros, est-ce qu'on peut dire qu'on passe de l'évolution d'espèces à l'évolution d'écosystèmes?
Oui, ça c'est vraiment un bon point de vue. Et je pense qu'en fait on englobe ce qu'on savait de l'évolution des espèces dans un tissu plus large, une tapisserie vivante qui va être ce réseau dans lequel on va pouvoir voir vibrer l'écosystème. Effectivement, c'est ça qui est important. On a un point de vue étendu. La question n'est plus tellement celle de l'espèce, la question est celle du collectif. Donc ce qu'il y a autour, en dedans et entre les individus.
Voilà pourquoi vous parlez aussi beaucoup de réseau. Est-ce que vous pensez, Éric Battès, qu'on en arrive maintenant à ce renversement de perspective, hein, l'évolution comme un processus aussi, on va y revenir. Est-ce que ça vous est possible en tant que chercheur, avec les nouveaux outils évidemment, mais aussi avec le fait que le réseau, c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui?
Oui, ça devient de plus en plus possible, mais ça reste un défi extrême. C'est extrêmement difficile. Les esprits sont effectivement plus préparés à penser en réseau parce que, effectivement, dans notre quotidien, il y a des réseaux partout. On sait qu'on fait partie de réseaux. On a des réseaux d'amis sur certains réseaux sociaux, pour ne pas les mentionner. Et donc ça, ça nous parle, cette métaphore du réseau. Mais au-delà du fait que ça nous parle, on a aussi des moyens de collecter des données, nous, les scientifiques, pour identifier les liens et identifier, par exemple, quelles protéines se trouvent exprimées en même temps, se trouvent fabriquées en même temps dans une cellule et donc capables d'interagir. Avant, on n'avait pas ces informations. Donc, évidemment, on progresse techniquement, on progresse conceptuellement, mais on est juste au début de ce processus de recherche. Il y a une discipline qui s'appelle l'évolution des systèmes. C'est une discipline absolument naissante. Donc, c'est pour l'avenir, plus que pour le présent, qu'on sera analysé, avoir une vue d'ensemble de ces réseaux de réseaux. Pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est étudier un réseau à la fois.
Au fond, ça se complexifie, hein, notre histoire, parce qu'étudier un collectif, c'est plus compliqué qu'étudier un individu tout seul.
Je ne sais pas s'il n'y a pas une part de sociologie là-dedans. Je pense que les biologistes ont toujours su que le vivant était complexe. Les modèles ont toujours simplifié cette complexité. Et c'est une des conditions pour étudier le réel.
La science donc, simplifie, enfin.
Oui, mais dans le fond, on sait, et ce pourquoi on devient biologiste, c'est parce qu'on aime cette complexité. Donc, c'est une espèce de dialectique. On regarde le complexe, on le simplifie pour le comprendre, on essaye de rendre les choses un peu moins simples, de rajouter un petit peu de réel, et on refait un tour comme ça. Donc, je dirais qu'on est maintenant capable de regarder plus de liens qu'on ne pouvait le faire auparavant. Et donc, il y a des choses à voir.
Est-ce que vous pensiez, quand vous avez commencé vos études en biologie évolutive, travailler comme ça sur les liens, sur du collectif ?
Pas du tout. J'ai commencé à m'intéresser à l'évolution parce que j'étais curieux de savoir comment on pouvait décrire le changement. Comment on pouvait parler, et est-ce que c'était seulement possible, j'étais même sceptique sur le sujet, de dire, bah voilà, il y avait un état ancestral et puis maintenant on est un état qui a évolué. Comment on est passé de l'un à l'autre? Est-ce que conceptuellement, on peut parler du changement? Les identités changent, les acteurs changent, les relations changent, les processus changent. Comment on fait? Donc je suis entré par ce biais-là et j'ai d'abord fait de la phylogénie. J'ai d'abord essayé de construire des arbres pour connaître les relations de parenté. Et ensuite, j'ai voulu comprendre les organisations, les relations fonctionnelles. Pas seulement qui est là, mais comment ça marche.
Comment ça marche et comment, vous le dites, ça ne cesse d'évoluer parce qu'il y a en plus, enfin pour complexifier encore l'affaire, on le sait bien, on n'est pas le même à chaque instant, enfin tout simplement. Et donc si en plus tous ceux qui nous habitent à l'intérieur, à l'extérieur changent aussi en même temps, oui. ça devient faramineux.
Ou pas, parce que dans la manière de modéliser cette complexité, on dispose de nouveaux outils. Par exemple, en théorie des graphes, on est capable maintenant de construire des énormes réseaux avec un très grand nombre de nœuds, ça c'est les éléments dans les réseaux, un très grand nombre d'arêtes, ce sont les relations entre ces éléments. On peut manipuler ces objets, donc on peut regarder s'ils ont une structure. On n'est pas obligé d'ailleurs de les prendre dans leur entièreté, intégralité, de regarder tout le réseau à la fois. On peut aller à un niveau fin, local, regarder qui sont tous les voisins d'un élément dans ce réseau. Donc, c'est difficile, mais c'est aussi de plus en plus gérable.
Et ça, c'est à l'œuvre et c'est vrai dans tout le vivant.
C'est vrai dans tout le vivant, à mon point de vue,
sur
que
Terre.
Rien n'existe seul. Un gène seul, il ne fait rien. Il interagit avec d'autres gènes, il interagit avec des ARN, il interagit avec des protéines. Une protéine seule, à part dans un tube à essai, dans un laboratoire, elle ne fait rien, etc., etc. Oui, depuis le début de l'histoire de l'évolution, il y a des réseaux à tous les niveaux.
Des réseaux à tous les niveaux, des mosaïques, des échafaudages.
Hein, des échafaudages, j'aime bien ce terme parce qu'il est plus neutre.
Échafaudage, tout s'entrelacer. C'est le titre de votre ouvrage, Aigri Battès, qui vient de paraître aux éditions Belin, et dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'info. Vous restez bien sûr avec nous. Aigri Battès, on continue de s'interroger tous ensemble, oui, tous ensemble, sur les réseaux de l'évolution et sur notre condition hybride. A tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Pourquoi sommes-nous tous entrelacés ?» et comment revisiter la longue histoire du vivant sur Terre en mode collectif, en réseau. Renversement total de perspective avec notre invité, le chercheur en biologie évolutive Éric Batteste, auteur de « Tous entrelacés !» point d'exclamation aux éditions Belin, des gènes aux super-organismes, les réseaux de l'évolution. Je vous rappelle, amis auditeurs, que nous avons un exemplaire de cet ouvrage à vous faire gagner pour partager cette évolution tous ensemble, cette révolution qui, comme toute avancée dans la connaissance, ouvre sur de nouveaux liens, mais aussi sur de nouveaux mystères, comme nous le rappelait ici même le philosophe Edgar Morin.
J'aime toujours connaître parce qu'une connaissance apporte quelque chose de positif. Là, par exemple, aujourd'hui même, je viens de lire une recherche qui m'a intéressé, qui montre que des souches microbiennes se développent dans des lieux différents en même temps, comme si elles étaient en interaction, comme dans la microphysique. Alors, voilà quelque chose qui me frappe beaucoup, voilà une nouvelle connaissance si elle se vérifie, et en même temps je dis, mais alors, notre réalité est encore plus mystérieuse que je le pensais.
Notre réalité est encore plus mystérieuse que ne le pensait Edgar Morin. C'est un peu en écho à vos recherches, hein, Éric Batteste, sur nos origines.
Disons que nos recherches, très modestement, font écho aux travaux d'Edgar Morin, qui sont très impressionnants, plus dans ce sens-là. Effectivement, la complexité, je crois, parler de la complexité, ne pas se voiler la face à la complexité, c'est un thème qu'on partage en commun.
Et Edgar Morin, c'est dans son dernier livre, « Connaissance, ignorance, mystère », disait que finalement, du coup, plus on avance dans la connaissance, et plus on avance aussi, enfin, plus l'ignorance qu'on a nous paraît énorme. Et là, c'est le cas dans ce nouveau regard sur l'évolution collective, processus.
Il y a énormément de questions. Qui interagit avec qui? Qui s'appuie sur qui? Est-ce que ces interactions sont réciproques? Comment, progressivement, elles se sont mises en place? Est-ce qu'il y a des principes d'organisation? Est-ce qu'on retrouve le même type d'interaction au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'il y a des nouvelles interactions qui apparaissent, qui n'avaient jamais existé auparavant? Des nouveaux processus? Donc on a effectivement un très grand nombre de points d'interrogation.
Autant de questions sur les super-organismes que nous sommes tous, puisque finalement, vous le disiez, tout le vivant depuis les origines sur Terre est en lien. Et la biologie, vous la renommeriez bien science du lien, magnifique.
Je pense que la biologie est une science du lien et du coup, l'évolutionnisme doit être d'étudier la dynamique de ces liens, l'histoire de ces liens, l'évolution de ces liens.
Qui ne sont pas du tout en pyramide, qui ne sont pas uniquement verticales, qui sont beaucoup plus horizontales, beaucoup plus complexe que ça.
Il y a des liens de différentes natures. Ah. Il y a des liens chimiques, il y a des liens électriques, il y a des liens spatiaux parce qu'on est au même endroit ou au contraire on est à des endroits différents et dans ce cas-là il n'y a pas ce lien spatial. Il y a des relations de parenté, il y a des liens fonctionnels, il y a une diversité de liens et donc il y en a certains qui sont plus horizontaux puis il y en a d'autres qui sont plus verticaux.
Et nous, alors les êtres humains, mais aussi les animaux, tout le vivant, sommes tous des co-constructions, on peut le dire comme ça?
J'en ai l'impression, parce que je ne connais pas de cellules qui vraiment existent en dehors d'une communauté, qui vraiment se transforment en dehors d'une communauté. Et effectivement, la dimension de co-construction s'appuie sur l'observation suivante. Les cellules ne sont pas imperméables, elles libèrent des produits que d'autres cellules peuvent récupérer et s'appuyer sur ces produits pour faire leur propre évolution. Ça, c'est la charpente du vivant. Donc, ça, c'est même sur un plan complètement... Les déchets évacués d'une cellule peuvent servir à une autre. On a cette idée déjà dans les chaînes trophiques, on a cette idée en écologie. Simplement, cette idée-là, il faut se la représenter entre les gènes, entre les protéines, entre les cellules, dans les écosystèmes, entre l'environnement et les êtres vivants. Et quand on fait cela, on s'aperçoit qu'on peut alors décrire des ensembles plus vastes que les espèces isolées sur une branche de l'arbre évolutif, par exemple. Et donc, on revient, pour conclure sur votre question, à nous, associés avec nos microbes. On peut commencer à penser à ces collectifs-là.
Est-ce que ça veut dire aussi repenser l'être humain lui-même, enfin ce que nous sommes, nous?
Oui, il y a vraiment, je pense, une part de redéfinition, de découverte de soi-même. Si une part de notre identité est microbienne, et qu'on a encore très peu étudié cette part microbienne. Alors forcément, on va s'apercevoir que notre santé, vous parliez de notre morale, nos capacités à cicatriser, beaucoup de choses peuvent dépendre de la présence de microbes. Si nous vivions sans microbes, nous ne vivrions probablement pas. Donc, effectivement, il y a des découvertes à faire.
Autour de la question, jusqu'où sommes-nous tous entrelacés? C'est maintenant Cécile Lestienne, rédactrice en chef de Cerveau et Psycho, qui vous interroge, Éric Batteste. On l'écoute.
Aujourd'hui, avec tout ce que l'on découvre sur les différents microbiotes et tous les organismes qui nous habitent, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes des super-organismes? Nous sommes des individus ou des super-organismes?
On n'a pas résisté à ce slogan de manif « Tous ensemble hein, », auquel vous faites un peu allusion d'ailleurs dans votre ouvrage très sérieux. Éric Batteste, sommes-nous, puisque vous parlez des gènes, aux super-organismes, sommes-nous, nous, êtres humains, des super-organismes?
Alors, tout dépend des définitions qu'on veut en donner. Si nous sommes plus que la somme de nos gènes, oui, absolument. Pas seulement parce que nous sommes aussi influencés par la culture, pas seulement parce que nous sommes aussi influencés par l'environnement, mais également parce que nous sommes influencés par la présence des microbes et des gènes de microbes. Et à cet égard, un certain nombre de nos caractéristiques, de nos traits, de nos propriétés sont construites en commun. Et donc, ça fait de nous pas tout à fait les hommes que nous pensions être. Un petit peu plus.
Un petit peu plus, au fond, pas un petit peu moins, mais un petit peu plus.
Ou un petit peu différemment, parce que pensons à l'appendice. On disait, l'appendice, ça sert à rien. D'ailleurs, on le retire après l'appendicite, les gens s'en portent pas plus mal. Dans une conception où nous sommes en interaction avec les microbes, l'appendice peut devenir un organe qui sert de réservoir à microbes. Donc, c'est un point de vue différent.
Et qui peuvent nous être utiles.
Donc, il y a à la fois ce qu'on connaissait de tout temps, on savait qu'il y avait l'appendice, mais il y a une interprétation de la présence de cet appendice qui est modifiée. Donc, c'est nous. Alors, c'est plus si on considère qu'en fait, ça nous permet de nous projeter dans un réseau, comme nous, humains, faisons partie d'un réseau plus large. Et sinon, c'est la même chose, mais vue sous un autre angle.
Et ça change des choses parce que de même que nos odeurs corporelles, tiens, elles sont bien liées à toutes les bactéries que nous habitons, qui sont nos hôtes, et nous sommes leur hôte, enfin on ne sait même pas très bien dans quel sens il faut le dire.
Et chez les hyènes, effectivement, là il y a une théorie très intéressante qui a été testée expérimentalement. Les parfums émis par les microbes qui sont présents chez les hyènes traduisent quelle espèce de hyène est passée par là, quelle était la position sociale de la hyène qui est passée par là. Est-ce que c'était un mâle ou une femelle? Est-ce qu'il ou elle était disponible pour la reproduction? Donc il y a tout un langage comme ça émis par les parfums des microbes.
Émis par les microbes des hyènes.
Et qui traduisent quelque chose sur qui sont ces hyènes.
Ça change, alors ça change quelque chose biologiquement, vous dites c'est la manière de regarder les choses, ça change quelque chose quand même philosophiquement, éthiquement aussi, quand on touche à quelque chose dans cet écosystème, il faut faire attention aussi.
Alors oui, effectivement, s'il y a des liens, si nous sommes liés à différentes choses, quand on tire sur un fil, il va y avoir des conséquences. C'est intéressant de penser en réseau pour savoir sur quel fil je peux tirer, quelles conséquences il y aura, et à l'inverse, pour identifier des liens qui peut-être ne sont pas là. Oh, il restait de l'espace ici pour créer un lien entre telle espèce de bactérie synthétique et moi, par exemple. C'est un lien qui n'existe pas encore. Est-ce que je décide de le créer ou de ne pas le créer? Donc cette réflexion, elle nous oblige dans deux sens. Elle nous oblige à savoir éventuellement maintenir et restaurer les liens entre nous et les microbes, parce que si on commence à jouer avec, il faudrait savoir les remettre en place, parce que notre santé en dépend. Et éventuellement, alors elle ouvre un possible qui est de dire, il y a des liens qui ne semblent pas avoir été réalisés. Et pourquoi ? L'évolution est une expérience. Tiens, cette expérience n'a pas eu lieu. Est-ce que ça vaudrait la peine de l'expérimenter ou pas?
L'évolution est une expérience. J'aimerais bien qu'on y revienne aussi, parce que quand je parlais d'enquête, vous parlez d'enquête avec des héros, des morts, des qui ont réussi à survivre ou pas. Alors, il n'y a pas de dessin là derrière, mais c'est une expérience. Il y a des expériences, ça marche, ça ne marche pas, on collabore, on fait des liens, on les défait. Celui qui n'est pas mort du lien, ben, il va au contraire en vivre encore mieux. Enfin, c'est
oui,
ça.
Oui, je rejoins ce point de vue, oui. Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est vraiment très différent d'une conception qu'on pouvait avoir avant. C'est une expérience des essais, des ratages.
Ça, c'est pas différent de ce qu'on a toujours pensé en évolution. Ce qui est différent, c'est l'identité des vainqueurs.
C'est
qui
ça.
Va sortir gagnant de ces expériences? Alors, dans un schéma classique, on va dire, dans des grandes populations, ceux qui vont sortir gagnant sont les plus aptes, ceux qui ont les meilleurs gènes par rapport à leurs confrères, à leurs conspécifiques. Et on a également maintenant une réflexion complémentaire qui nous dit peut-être que ceux qui vont s'en sortir également sur la planète, ou ceux qui vont s'en sortir surtout sur la planète, c'est pas tellement ceux qui se divisent le plus vite chez les bactéries, parce que ceux qui se divisent le plus vite vont être attaqués le plus par les virus. Donc c'est peut-être pas les vainqueurs de la course, mais les numéros 2 et les numéros 3 qui vont peupler la planète. Peut-être que ceux qui vont s'en sortir le plus sur la planète, c'est ceux qui savent vivre le mieux avec les autres. Je sais que vous allez m'en parler après, il y a des bactéries très réduites, elles n'ont pas tous les gènes pour coder de quoi vivre de façon autonome, mais elles sont très abondantes en termes de diversité et leur diversité est maintenue par les associations avec d'autres bactéries qui, elles, possèdent les gènes qui leur manquaient.
Donc collaborons, le collectif, c'est pas le plus fort, hein. Ça peut être le plus faible si c'est bien s'allier
et
faire
mécanique.
Un bon collectif.
Alors c'est mécanique, je pense qu'il ne faut pas avoir une lecture vraiment là, anthropique de cette chose-là. Mmh. C'est pas forcément... C'est une lutte d'un certain point de vue parce que les ressources sont limitées, mais quand c'est mécaniquement une mise en place d'associations, d'agrégations, là je pense qu'il ne faut pas parler de fort ou faible, il faut juste parler d'ensemble qui sont encore persistants aujourd'hui, ont cessé de persister.
Ici et maintenant, sur RFI, Once in a Lifetime, autour de la question « Pourquoi sommes-nous tous entrelacés ?», je propose d'écouter Oasis Diop dans cette reprise des Talking Heads.
Les bonnes. L'épaule, à mon avis, d'un homme. Gore, aka Amon Ram Ram. Le monde en jungle, Kéman là. Au fait de l'âme, au fait de l'âme, au fait de l'âme, au fait de l'âme, dit tout à tout le monde que Guinao.
Once in a lifetime, quand Oasis Diop entrelace les Talking Heads sur RFI. Nous sommes en compagnie du chercheur en biologie évolutive Éric Batteste. Autour de la question, pourquoi sommes-nous tous entrelacés, des gènes aux super-organismes et pourquoi ça change tout? À commencer par l'arbre du vivant, qui est à réinventer comme un grand réseau dynamique. Certaines branches restent tout de même encore assez énigmatiques, comme nous le rappelait ici même la professeure Marie-Christine Morel, spécialiste des origines de la vie, dont vous avez été l'étudiant, Éric Batteste, et qui a une question pour vous.
Je voudrais lui poser la question de ces CPR, ces Candidate Phyla Radiation, qui sont une part très très importante de l'arbre du vivant. Comment les caractériser? Comment les faire rentrer dans l'arbre du vivant tel qu'il est défini aujourd'hui autour des trois grands domaines? Ou bien faut-il créer un nouvel arbre du vivant à partir de toutes les données que ces CPR nous fournissent. Et donc, voilà, c'est une question, je pense, qui est fondamentale, parce que il y a d'autres candidats à une quatrième branche dans l'arbre du vivant, autour des virus, des viroïdes. Cet arbre n'est plus un arbre, on tend vers un buisson, un foisonnement absolument considérable de la vie, qui s'exprime de manière phylogénétique aussi, puisque tout est apparenté, et dans le livre qui est proposé par Éric Baptiste, il est vraiment question d'un réseau très très profond. Et voilà, donc je voudrais avoir ce commentaire sur l'arbre du vivant, le buisson du vivant, à travers toutes les données dont on dispose aujourd'hui.
Votre commentaire, votre réponse sur ce buisson du vivant, Éric Baptiste.
Un buisson du vivant, un réseau du vivant qui n'est pas hors sol. Donc j'étends encore. On sait qu'il y a des liens en termes de partage génétique des gènes qui voyagent entre certaines espèces, entre les espèces. Mais on sait aussi que les organismes vivent dans des environnements. Donc ce réseau-là, il est ancré dans autre chose, il est ancré dans des paysages, il est ancré autour d'éléments géologiques. Et par conséquent, il y a plusieurs choses qui se croisent dans le grand réseau que je dessine. Il y a les cycles géochimiques, il y a l'origine des minéraux, il y a ce paysage qui change, et puis il y a les vivants à l'intérieur de ce paysage, les vivants qui peuvent construire ce paysage, les vivants qui contribuent à enrichir à un moment donné de l'histoire l'atmosphère en oxygène. Donc ils transforment leur environnement. Et dans cet environnement transformé, d'autres vivants vont être impactés. Donc il y a un aller-retour entre ce réseau biologique qui est déjà plus large que l'arbre biologique. Ce réseau biologique est en fait un réseau qui va même au-delà du biologique. Si on veut comprendre le vivant, on doit comprendre qu'il vit dans l'environnement. Donc dans le réseau, il y a à la fois des éléments qui sont des éléments de l'environnement, il faut du fer, il faut d'autres métaux, il faut de l'oxygène, et puis il y a aussi des éléments qui sont des éléments vivants. Donc le grand réseau, il est encore plus large que le réseau biologique.
Et donc il faudrait rajouter encore des embranchements. Est-ce qu'on peut s'imaginer aussi non, c'est même pas rajouter des embranchements.
Non, je dirais
parce
pas
parce qu'il y a peut-être des branches qu'on connaît moins que d'autres.
Il y a beaucoup de branches de biologiques qu'on connaît très mal. Alors on va dans l'environnement, on récolte de l'ADN, des gènes de l'environnement, pour essayer de les comparer avec des gènes qu'on connaît et identifier éventuellement des nouvelles lignées. Et éventuellement, comme le suggérait Marie-Christine Morel, des lignées très profondes. Ça, c'est fascinant. On fait ça dans mon laboratoire. On rêve de découvrir, il y a les archées, il y a les bactéries, il y a les eucaryotes. Ça, c'est les trois grands domaines du vivant depuis 1977. Ben, on rêve d'en découvrir d'autres. Pourquoi pas quatre, pourquoi pas cinq?
Les virus, les viroïdes.
Alors, même sans penser aux virus, on penserait à d'autres cellules, des organisations qui ont donc une membrane, qui ont probablement des ribosomes, mais qui seraient apparues il y a très 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 longtemps, et de ce fait qui auraient tellement divergé, qu'auraient des gènes tellement différents,
qu'on ne pourrait même plus les identifier.
On a du mal à les identifier, parce que quand on essaye de les comparer aux choses connues, ils ressemblent très très peu. Donc pour ça, il faut aller dans la nature, il faut aller dans l'environnement, il faut chercher les gènes de l'environnement et essayer de les rattacher au réseau du vivant qui existe déjà.
Est-ce que dans ce que vous parliez, on a un peu l'impression de sorte de poupée russe? Est-ce que c'est un peu ça? Y aurait le vivant à l'intérieur et puis des poupées russes, enfin le réseau comme ça, une espèce de poupée russe?
Il y a un élargissement, il y a effectivement un souci d'englober des aspects régionaux de la biologie, des choses qu'on connaît bien, l'évolution des animaux est englobé dans quelque chose de plus large. L'évolution des animaux plus de leurs microbes est englobé dans quelque chose d'encore plus large. L'évolution des animaux plus leurs microbes plus leur environnement, etc., etc. Donc oui, il y a cette dimension-là, absolument.
Et vous ne faites qu'élargir au fond le...
Non, non, je voulais insister là-dessus.
Oui.
En trouvant des nouvelles lignées,
oui,
en trouvant des nouveaux acteurs, on va être amené à découvrir de nouveaux liens. Parce que ces acteurs entretiennent des liens avec autre chose. Donc en fait, la vraie question, derrière celle de Marie-Christine Morel, c'est d'une part, y a-t-il des lignées manquantes? Oui, absolument. Y a-t-il des domaines manquants? Je n'en sais rien. Ça, c'est tellement des lignées tellement anciennes. Mais que font-elles? Ça, pour moi, c'est la vraie question. Ces acteurs manquants, quel rôle jouent-ils dans les écosystèmes?
Quels liens ont-ils avec les autres, dans ce collectif?
Quels liens ont-ils avec les autres, absolument.
Et comment évoluent-ils eux aussi? Parce que, dernière énorme révolution que vous nous ouvrez, ou fenêtre que vous ouvrez sur le grand large, après avoir compris qu'au fond, on étudiait l'évolution des espèces, puis l'évolution des écosystèmes, vous voulez maintenant étudier l'évolution des processus, du mouvement lui-même.
C'est plus abstrait, mais effectivement, si on réfléchit à ce qu'a été l'objectif affiché, en tous les cas, dans le titre de l'ouvrage de Darwin, L'origine des espèces, on veut décrire l'évolution des espèces. C'est très ambitieux, c'est très important, ça permet à des disciplines essentielles, des réflexions essentielles de se mettre en place. Mais l'évolution des espèces ne va pas nous donner l'évolution des écosystèmes, parce que ce n'est pas le même objet. Pourtant, l'écosystème, il est aussi le résultat de l'évolution. Une évolution complexe, parce qu'il y a le vivant qui a évolué, il y a l'environnement qui a évolué. Mais un évolutionniste au sens large s'intéresse à tout ce qui a évolué. Et donc, une des manières de s'intéresser plus qu'aux espèces, s'intéresser aussi aux écosystèmes, c'est en fait d'avoir une approche plus générique, plus abstraite. Et qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui peut se décrire et expliquer le changement? Ce sont les processus. Parce qu'en réalité, quand une chose s'appuie sur une autre, ou qu'une action prolonge une autre action, dans cette continuité-là, il y a un processus qui se déploie. Et c'est ça qui nous permet d'expliquer comment on est passé d'un point 1 à un point 2 au cours du temps. Et par conséquent, retracer un processus, c'est expliquer. Comment un évolutionniste peut vraiment expliquer? C'est en expliquant, en décrivant les processus qui ont permis de passer du passé au monde contemporain.
Mais ça semble là une tâche extrêmement ardue, c'est extrêmement compliqué.
Là, on est dans la philosophie, mais c'est une philosophie qui dit la chose suivante. On avait, avec un arbre des espèces, une pensée d'ordre phylogénétique, qui est très importante. On essaye de comprendre qui est parent avec qui. Mais il nous faut aussi une pensée processuelle. Pensée qui s'appuie sur qui. Pensée des processus, absolument.
Qui s'appuie sur qui est en collectif avec qui.
Oui. Et qu'est-ce que cela change de penser en termes de processus? Et ça change certainement beaucoup de choses, parce que par exemple, il y a des processus qui sont apparus relativement récemment dans l'histoire de l'évolution. La reproduction sexuée, apparue avec les eucaryotes, n'existait pas avant les eucaryotes. Et donc, toutes les questions qui se posent autour de la reproduction sexuée, définition des espèces sur la base de la capacité à se reproduire ensemble, sont des questions qu'on ne peut pas posées avant l'invention de la reproduction sexuée. Donc, il y a une partie du vivant, il y a un moment de l'histoire de la vie sur Terre qui résulte des processus qui ne sont pas les mêmes que les processus actuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une des clés des évolutionnistes pour remonter dans le passé, qui s'appelle l'actualisme, qui consiste à dire, ma meilleure inférence, mon pari sur le passé, c'est d'imaginer que ce qui se passe aujourd'hui se passait hier, et que ce qui se passe hier se passait avant-hier, et que ce qui se passe avant-hier se passait encore avant. Donc on dit, les processus contemporains, j'essaye de les projeter dans le temps et voir quelles auraient pu être les organisations et les êtres vivants du passé. Sauf que ça ne marche pas quand des nouveaux processus majeurs apparaissent, parce qu'on essaye de parler de reproduction sexuée, puis on rencontre un mur à un moment donné. Y a un moment où il n'y avait pas de reproduction sexuée. Donc, penser les processus, ça nous oblige à être pluraliste. Ça nous oblige à dire, je ne pourrais pas décrire toute l'histoire de l'évolution avec une recette, avec un schéma.
Et quand vous parlez de mur, justement, comme l'invention, entre guillemets, de la sexualité, c'est un moment, c'est pareil, c'est un processus. Là aussi, il faut du temps.
Absolument.
Mouvement.
Absolument, vous avez raison. Donc effectivement, ça c'est la difficulté des philosophies des processus. Tout change. Même ce qui semble ne pas changer change en réalité très lentement. Et par conséquent, il y a une question d'échelle. On croit qu'on regarde une entité, en fait, on regarde un processus.
Est-ce que ça a changé votre vie, cette réflexion-là? Parce que, effectivement, vous dites vous-même, méfions-nous de l'anthropisme ou de trop philosopher là-dessus, mais c'est quand même une autre vision du monde, en lien, en mouvement, en réseau, en collectif. Est-ce que ça a changé votre propre vision de vous-même?
Non, je pense réellement que c'est une vision assez intuitive pour beaucoup d'entre nous. Je pense que la difficulté, c'est de pouvoir en parler d'une manière scientifique, qui soit suffisamment rigoureuse et qui soit suffisamment créative.
En tout cas, ça a des implications, ou ça pourrait avoir des implications pour nous aujourd'hui sur Terre, parce qu'il y a des résonances quand vous nous parlez d'écosystème, de la manière dont quand on touche à quelque chose, on touche à autre chose, de ces équilibres, de ce mouvement perpétuel, de ce collectif. On se dit qu'on a des choses à apprendre en biologie, mais pas seulement, en vous écoutant.
Oui, alors bon, il faut bien réaliser que ce n'est pas les évolutionnistes qui donnent le « là » à comment la société va se comporter. Mais il est certain que les métaphores de l'évolution sont utilisées, et au sens assez large, dans les débats de société. Donc, si on promeut des métaphores qui nous disent « attention, on fait partie de différents ensembles, il y a des liens, il y a des fils, il y en a qu'il ne faut pas briser, il y en a qu'il ne faut pas tirer, il y en a qu'on peut tirer, il y en a que ce serait amusant de tirer », évidemment, on développe des métaphores qui peuvent permettre différentes applications pour la société.
Tous ensemble, hein, pour reprendre un des sous-titres de votre livre. Merci infiniment Éric Batteste d'être venu en direct partager toutes ces nouvelles pistes hybrides qui font fourmiller notre imagination. Je rappelle le titre de votre ouvrage scientifique, Tous entrelacés, point d'exclamation, des gènes aux super-organismes, les réseaux de l'évolution aux éditions Belin, dont nous avons encore un exemplaire à vous faire gagner. Amis auditeurs entrelacés, qu'on se le dise.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour notre table ronde mensuelle avec nos confrères et consœurs de la presse scientifique. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, avec comme chaque mois des magazines à gagner pour vous, fidèles et curieux auditeurs. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI, le prochain journal dans 30 secondes.